Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro. Vous le savez, chaque vendredi, je reçois une personnalité marquante du secteur et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Xavier Lépine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va apprendre à vous connaître pour ceux qui ne vous connaissent pas, puis vous connaître un peu plus, voilà, parce qu'on va, c'est vrai qu'on a 40 minutes pour discuter de votre parcours, de ce que vous faites actuellement aussi, hein, de Néoproprio, on va découvrir cette société des nouveaux propriétaires. Dans cette émission, vous êtes aux commandes de la programmation musicale. Donc ça, c'est un fait. On a écouté votre première musique, Imagine de John Lennon. Pourquoi ce choix ?
Si vous prenez les paroles, finalement, elles renvoient à la fraternité. Et la fraternité, c'est en même temps une valeur particulière. Liberté, égalité, fraternité. La liberté a été récupéré finalement par la droite, l'égalité par la gauche, et on a oublié l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, tout cela n'a de sens et n'est possible à vivre que s'il y a une certaine fraternité. Et il me semble que c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire l'altérité, l'acceptation de l'autre. Donc pour moi, cette chanson, en dehors du fait qu'effectivement, la nostalgie de ces années-là, qui étaient aussi les années où j'étais forcément plus jeune, c'est aussi l'engagement que finalement qu'on devrait tous se poser. C'est-à-dire en quoi est-ce que on participe au bien commun dans nos activités. Voilà, d'où ce choix.
Un bon choix en tout cas, ça fait du bien de se réveiller avec ce genre de musique. Alors dans le mag, on a aussi un petit rituel. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases pour nos auditeurs ? Voilà, alors c'est pas évident de parler de soi, mais si vous deviez vous présenter.
Bon, boomer et financier. Boomer, c'est pour ceux qui ont la chance de nous avoir en vidéo, c'est assez visible. Et financier, mais boomer, c'est pas uniquement de pas s'être préoccupé de la planète ou autre. C'est aussi d'avoir eu la chance de vivre des époques différentes et de voir finalement l'évolution du monde sous le prisme de cette deuxième particularité de ma personnalité, c'est-à-dire la finance. C'est-à-dire finalement en quoi est-ce que le prisme qu'apporte quelqu'un qui a vécu des périodes différentes et dans des pays différents d'ailleurs. Des périodes d'hyperinflation, des périodes d'inflation, des périodes de croissance, des périodes de... Ce que je n'avais pas encore vécu, finalement, c'est ces périodes de tension extrême, telles qu'on les vit aujourd'hui, effectivement, avec ce qui se passe dans différents pays, d'une certaine manière, au sein de notre pays. Voilà, donc, moi, ma boomer et financier, c'est... Je pense avant... Bon, ma vie, ça a été toujours m'intéresser aux situations complexes. Une situation où finalement il y avait une certaine désespérance. Ça a été par exemple, les 10 premières années de ma vie professionnelle, donc les années 80, j'accompagnais les grands exportateurs nationaux dans des financements de projets à l'international, principalement en Amérique latine. Il s'agissait de construire, je ne sais pas moi, une usine de pâte à papier en Colombie, le barrage de Yacyretá en Argentine, ou que sais-je, une usine d'engrais en Malaisie ou l'aéroport de Varsovie. Donc toujours des problématiques d'infrastructure. C'est intéressant de voir finalement toute cette technologie qu'on arrivait à exporter. Et puis très rapidement, la situation des pays s'étant dégradée dans les années 80, finalement on arrivait à une situation où il n'y avait plus de financement possible. Et là je me suis dit, c'est pas qu'il y a des opportunités, c'est qu'il faut casser le modèle. Et donc j'ai créé ma première société d'investissement en 90, avec le soutien de celui qu'on appelait à l'époque le Mozart de la finance, qui était Jean-François Hénin, donc qui dirigeait Altus, qui était une filiale successivement du Crédit Lyonnais, puis de Thalès, puis du Crédit Lyonnais, et pour finalement racheter la dette de ces pays défaillants et de voir ce qu'on pouvait en faire. De la même manière, je me suis beaucoup intéressé aux privatisations en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Oui. C'est à 91, 92 et en 94, privatiser 200 sociétés par jour. Et donc, les opportunités, alors évidemment, il y a des opportunités tristes, si je puis dire, puisque c'est l'arrivée des oligarques, mais c'est aussi de merveilleuses opportunités, effectivement, d'investissement. Bon, tout ça m'a amené à une autre situation qui m'a aussi beaucoup intéressé. Au début des années 2000, je me suis dit, mais là, c'est pareil. Qu'est-ce qui est dysfonctionnel ? Les marchés de capitaux. Les marchés de capitaux étaient très dysfonctionnels. On crée l'euro, une monnaie sans État, la même monnaie partagée avec des pays différents. Avec, ça, c'est pour une partie. Pour une autre partie, vous avez eu l'explosion de la bulle Internet, papanoël.com. Et puis, vous aviez aussi l'arrivée de la Chine dans l'OMC en 2001. Ces événements majeurs créent des ruptures profondes dans l'économie. Et là, c'est l'opportunité pour moi de dire, on va changer de métier. On va plutôt aller vers de l'arbitrage. Et là, j'ai trouvé pas mal de capitaux pour me suivre et pour aller vers cela. Puis ensuite, le directeur général du Crédit Mutuel Nord-Europe, Éric Charpentier, a eu la gentillesse, ou l'intérêt, ou les deux, de me confier effectivement les rênes de la française, de ce qu'est devenue la française, donc qui était un asset manager, où là, je me suis intéressé à l'immobilier en général, jusqu'au moment où je me suis dit,
C'est à ce moment-là que vous vous intéressez à l'immobilier.
Oui, à partir de 2005, en me disant, c'est bizarre, tout le monde a une opinion, parce que tout le monde habite quelque part. Mais cette opinion, elle est finalement très, très peu circonstanciée, en dehors de l'opinion qu'on a soi-même. C'est-à-dire, elle n'est pas rationalisée par des aspects économiques, par des aspects financiers, etc. Donc je me dis, c'est très bien, c'est quelque chose qui est mal arbitré. Si vous prenez le logement, d'ailleurs, c'est encore plus intéressant parce que le particulier, lui, va arbitrer entre l'achat ou la location, alors que l'investisseur, il va arbitrer entre le risque et le rendement. Mmh. Donc typiquement, une situation anormale, puisque vous avez deux acteurs qui vont être sur le même objet et qui n'ont pas les mêmes motivations.
Mmh. Alors actuellement, là, vous êtes président de Neoproprio, la société des nouveaux propriétaires. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes aussi président de l'IUIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, un institut qu'on aime beaucoup sur Radio Immo. Président aussi de Paris-Île-de-France Capital Économique. Comment vous faites déjà pour gérer toutes vos casquettes? J'imagine que vous avez un emploi du temps assez...
J'ai un emploi du temps qui est sympa, c'est clair, mais... Il y a une cohérence. Et cette cohérence, c'est se dire, il y a l'écosystème. Il y a l'écosystème, finalement, le Grand Paris, le projet du Grand Paris Express. Oui, d'ailleurs, je suis aussi vice-président du fonds de dotation de l'art et de la culture du Grand Paris Express. Donc, je veux dire, la cohérence, c'est de dire le vivre ensemble.
Le vivre ensemble. Encore une fois, la fraternité.
Oui, une forme de fraternité. Mmh. Le vivre ensemble, premier des objets, si je puis dire, de concrétisation de tout ça, c'est l'immeuble, c'est la ville, c'est la cité. Donc, de travailler finalement avec tous les acteurs de la ville, parfois sur des prismes différents. Les acteurs de la ville, c'est aussi bien les promoteurs, les investisseurs, les utilisateurs, ceux qui les financent. Bien, tout ça se retrouve quelque part à travers ces différents mandats.
Mmh. Et alors là, concrètement, Neoproprio, donc c'est votre nouveau bébé, on peut le dire.
Eh oui, c'est un accouchement sympa.
Ouais,
c'est une gestation.
Ça s'est bien passé.
ça se passe pas mal parce que on a toutes les circonstances de dysfonctionnement.
Ouais. Alors, c'est justement les situations dysfonctionnelles que vous évoquiez. Ça, c'est ce qui vous attire, en fait. Ça vous attire parce que vous avez envie de les résoudre, en fait, ces situations dysfonctionnelles. On va dire de trouver l'équilibre.
Oui, alors il y a probablement un petit côté, puisque...
Super-héros,
oui, je vais sauver le monde tous les matins. Surtout quand c'est tôt, là, comme maintenant. Mais il y a peut-être un peu de ça... Oui, certainement, il y a une attirance chez moi assez forte sur... si vous voulez, les situations simples ne m'attirent pas tellement. Je préfère les sommets, il y a moins de gens. Alors c'est peut-être parce que j'aime pas la concurrence, ou que je la crains, mais c'est aussi parce que j'ai le sentiment que c'est dans ce type de situation qu'on peut avoir une réelle valeur ajoutée.
Alors, vous avez envie de vous démarquer?
Oui. Bah, c'est tout. On a tous des problèmes d'égo, hein. Donc, y a certainement de ça. Mais au-delà de ça, qui est probablement réel, au-delà de ça, c'est de se dire, OK, maintenant, j'ai plutôt pas trop mal réussi. J'ai plutôt réussi à créer ce groupe, La Française, qui était parti, qui existait déjà avant que j'arrive, mais qui s'est notablement développé pendant que j'y ai les 20 ans où j'y suis resté. Et de me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais? On a cette situation du logement qui en fait se dégrade d'année en année, de décennie en décennie, finalement depuis les années 80.
Depuis, voilà, pour vous le point de départ c'est quoi? C'est les années 80?
Alors, je vais pas refaire toute l'histoire du logement, mais les dernières innovations financières en France en matière de logement, dans le secteur privé, il y en a eu deux très majeures. C'était dans les années 50, la création des crédits à taux fixe pour permettre aux particuliers d'avoir une visibilité.
Et ça a c'était été c'est un des rares pays d'ailleurs à avoir mis en place ça.
Oui, c'est un des rares pays. Et c'était, pourquoi on n'a pas été copié? Parce que finalement, c'est bien. Je connais personne qui se plaigne d'avoir une visibilité sur les remboursements de l'acquisition.
Bah, nos voisins nous envient, oui.
Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est un peu la question. Alors, on va me dire c'est culturel. C'est culturel, mais c'est pas que culturel. Quand on a décidé ça dans les années 50, c'est parce qu'en fait, il y a eu quelqu'un qui a eu, je ne sais pas qui d'ailleurs, peut-être Pinet, qui a eu le culot de se dire, pour finalement l'argent n'étant pas à coût fixe, mais à coût variable, comment est-ce qu'on le transforme à taux fixe? Donc on a fait une loi très particulière, où on a dit, finalement, on ne va pas rémunérer les dépôts bancaires. Et donc, ne rémunérant pas les dépôts bancaires, on avait un coût fixe de l'argent qui était de zéro. Ça ne veut pas dire qu'on prêtait à zéro, ça veut dire qu'on connaissait le coût à l'avance. Et donc, on avait un monopole du crédit foncier qui distribuait des crédits à l'époque et qui pouvait réguler finalement le coût du logement en fonction de la production de logement. En 65, ça s'est libéré, les banques ont été autorisées à le faire. Mais c'était une loi extrêmement fondatrice finalement de notre système d'acquisition. Et il y a une deuxième loi, donc en 1967, qui était la vente en l'état futur d'achèvement, que connaissent sûrement la VEFA, une grande partie de nos auditeurs aujourd'hui, et qui était finalement la réponse au fait que nous n'avions pas de foncière de développement et de détention en France, puisqu'on avait, on a créé le métier promoteur par carence de fonds propres, finalement, dans des foncières. Et ça, c'est très original aussi. Il y a très peu de pays qui fonctionnent, en tout cas de façon aussi intensive que nous, sur le système de VEFA. Ce sont les dernières lois qui finalement, qui sont en même temps celles qui ont porté sur les fonds bâtissements l'accession à la propriété. L'accession à la propriété, au début des années 50, il y avait 15% des gens qui étaient propriétaires. Puis ils sont passés à 50% en 1980.
Alors aujourd'hui, c'est 57,7 selon les derniers chiffres de la FNAM.
Voilà, oui, mais c'est un peu toujours les mêmes, d'une part. Et puis, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup?
Comparé à nos voisins, alors je crois qu'on est 8e au niveau européen. En revanche, les propriétaires français sont ceux qui sont le plus endettés. Donc, est-ce que c'est parce que c'est ce que vous me disiez hors antenne, hein, les prix de l'immobilier ont flambé? Est-ce que parce qu'un propriétaire a plusieurs biens? En tout cas, les propriétaires sont les plus endettés au niveau de l'Europe.
Alors, c'est très intéressant parce que finalement, c'est toujours, je refais un petit peu d'histoire. Dans les années 80, les années 70, on a connu la crise du pétrole. On a changé notre modèle économique. On a, grosso modo, on est passé d'un système industriel vers une société de services. Donc on a dit, en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Et ça s'est traduit par on n'a plus d'usines, on a des bureaux. Mmh. Donc tout l'aménagement du territoire, la fiscalité, tout ça a été ordonnancé de façon à satisfaire le développement de cette reconversion industrielle au détriment du logement. Donc c'est très clair, les taxes sur les bureaux qui fait de l'argent pour les municipalités, c'est super. Par contre, faire du logement, ça coûte pour une municipalité. Donc on a quelque part involontairement créé la rareté du logement en termes d'offres. Mmh. Et puis c'est toujours pareil, le maire, c'est normal, il a des électeurs, il a envie d'être réélu.
Il a envie d'être réélu aussi.
Ce qui est assez logique, d'ailleurs, ouais. Il dit généralement ma ville. Ouais. Bref, on se l'approprie et c'est logique. La contrepartie de cela, c'est qu'effectivement, les électeurs, c'est d'accord, il faut construire, mais ailleurs. Enfin, sauf si c'est pour mes enfants ou mes cousins. Mais c'est comme ça, c'est la nature humaine.
Bah ça s'est d'ailleurs accentué, hein, ce phénomène, depuis, c'est ce que disent les maires, hein, depuis 4-5 ans. Avant, les habitants étaient anti-construction de bureaux, d'entreprises. Là, c'est vraiment anti-logement. Hein,
Ils sont très opposés, oui, parce que effectivement,
c'est de faire venir des nouvelles personnes. C'est...
Bah, si vous êtes un maire de gauche... Ouais. Et qu'il y a une gentrification de votre ville,
oui.
Vous avez un petit risque de ne pas être élu. Et si vous avez un maire de droite et que vous avez 25% de logements sociaux, vous avez aussi une chance non négligeable de ne pas être élu, y compris par vos électeurs traditionnels. Donc le plus simple, c'est quand même de dire non.
Oui. Donc ça arrange tout le monde, en fait, de dire non.
Tout le monde est personne. Parce que
je veux dire les maires, enfin peu importe le bord,
oui, peu importe le bord politique.
Ouais.
Donc c'est un acte de foi qui est difficile à assumer. Il n'y a pas beaucoup d'incitatifs positifs à le faire. Bon, par ailleurs, au niveau du prix, parce que vous dites les Français sont les plus endettés. Oui, parce que finalement tout système économique a des effets pervers, des effets de bord négatifs. Le fait d'avoir des crédits à taux fixe, c'est génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis la crise de 2008? Les taux d'intérêt, paradoxalement, ont baissé, je dis bien paradoxalement, dans le sens où on pouvait penser que la hausse du risque aurait dû faire monter les taux. Mais en fait, il y a eu un hélicoptère monétaire, la Banque Centrale Européenne a injecté beaucoup de liquidités, a fait baisser les taux.
Il y avait énormément de liquidités en circulation. Ouais.
Et donc, tout le monde gueule contre le HCSF en disant « Oh, il nous empêche de prêter ».
Donc le Haut Conseil de stabilité financière, hein, je rappelle à nos auditeurs.
Ah oui, excusez-moi.
Non, pas de problème.
Mais la réalité, c'est que la logique économique, quand les prix montent, c'est que les taux d'intérêt montent. Il s'est trouvé que les prix d'à peu près tout ce qu'on consommait à partir de 2008 ont plutôt tendance à être... l'inflation à être très très basse. Rappelez-vous, au début 2020, on se disait comment est-ce qu'on va faire pour créer 2% d'inflation, parce qu'on n'y arrive pas. Donc on injectait des liquidités. Et ce qui était vrai, c'est que les prix globalement de l'indice INSEE des prix... à la consommation, stagner, voire baisser. Sauf pour la première dépense des Français.
Le logement.
Mmh. Mais ça, on a les banques commerciales portent une certaine responsabilité. Elles ont été en quelque sorte des banquiers pyromanes parce que les prix augmentaient et elles disaient « je te prête moins cher sur plus longtemps ». Oui. Vas-y. Ouais. Sur un bien qui est rare...
Qui dit non ?
Sur un bien qui est rare, vous vous retrouvez dans une logique où les gens finissent par payer très très cher. Alors ils ont l'impression de s'enrichir parce que les prix continuent d'augmenter. Mais enfin, vous avez toujours le même nombre de mètres carrés. Hein.
Oui.
L'immobilier est un bien très particulier parce qu'il n'a pas de gain de productivité en tant que tel. Un mètre carré il y a 20 ans, c'est toujours un mètre carré
aujourd'hui.
Non,
c'est de la spéculation au final.
Spéculation, j'aime pas le mot parce qu'il y a une connotation négative. Il y a une forme de rationalité qui est particulière à l'immobilier dont on n'a pas tenu compte. Je pense qu'on aurait dû réguler beaucoup, beaucoup plus les taux et les conditions de crédit.
D'accord.
Et ça, si vous ne donnez pas les moyens aux gens d'acheter, les prix n'augmentent pas.
Alors pour parler de cette dette, justement, pour donner les chiffres, hein, la dette contractée donc par les propriétaires français est passée de 400 milliards en 2003 à 1400 milliards fin 2021. Donc c'est une étude de la Banque de France qui vient d'être publiée. Et je vous l'ai dit, hein, les Français sont donc les habitants les plus endettés des grands pays d'Europe.
Oui, mais moi, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus.
Oui, parce qu'au final, quand on dit endetté dans l'immobilier, on le sait, ce n'est pas forcément négatif.
Non, ce qui est assez préoccupant pour la France, c'est que finalement, on a eu une politique économique on n'a pas de vision globale, holistique, systémique, sociétale de l'immobilier en France. Est-ce que vous voulez une France de propriétaires, 58% finalement, la moyenne de l'Europe est à 70%, donc c'est pas tant que ça. 65% en Angleterre, 65% aux États-Unis.
On est loin derrière nos voisins.
On est très loin derrière beaucoup de nos voisins, en tout cas.
En Roumanie, je crois que c'est 80 ou 90%.
Oui, mais parce qu'ils ont tout donné. Ils ont, mais prenons l'Italie, 70%, l'Espagne, plutôt 80%. Bah, je dis l'Angleterre, 65%. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la richesse des Français, au sens patrimonial du terme, selon l'INSEE, c'est à peu près 12 trilliards, donc 12 000 milliards d'euros, donc un peu plus de 6 fois le PIB. La problématique, c'est sur ces 12 trilliards, vous en avez 8 qui est en immobilier. Donc, si, ce qui en laisse, ça fait 6 fois le PIB, donc jusque-là, on est comme tous les pays occidentaux. Notre richesse des Français en général est la même qu'un Suédois, qu'un Allemand ou qu'un Anglais, en nombre de, enfin, pourcentage du PIB, 6 années. Mais nous, on a cette surexposition à l'immobilier parce qu'on est prêt à payer n'importe quel prix. Donc on a 8 trilliards en immobilier, ce qui en laisse 4 dans autre chose. Le autre chose, vous en avez 1,5 milliard dans la dette de l'État français.
Autant dans la dette
À travers les contrats en euros. Donc, le deuxième produit préféré des Français. Vous en avez à peu près 1 trilliard qui est dans les entreprises que détiennent les artisans, les petites entreprises pour elles-mêmes, ce qui vous en laisse à peu près 1,5 trilliard pour investir dans l'économie dite réelle, c'est-à-dire les actions. Alors, rien que la Bourse de Paris, ça fait 2,3 trilliards. Ce qui veut dire que les Français, d'un côté, se plaignent de voir leurs grandes entreprises détenues par des capitaux étrangers, mais en même temps, ils mettent leur argent pour acheter un appartement. Ils voient un deuxième appartement pour le louer. C'est-à-dire, ça pose un vrai problème. Alors, c'est même plus de souveraineté nationale. Ouais. C'est un problème de souveraineté individuelle. Ne te plains pas si ton entreprise est délocalisée, parce que finalement, t'as pas envie de... Si on reprend l'exemple de l'Allemand, du Suédois, etc., ils mettent beaucoup, beaucoup moins d'argent dans l'immobilier, qui de ce fait-là vaut moins cher, et le reste, c'est dans l'économie.
Donc pour vous, l'appétit des Français pour l'immobilier est trop important, les Français devraient être moins gourmands?
Bien, en réalité, oui et non. Non, parce qu'effectivement, on a besoin d'un toit, c'est à peu près la seule constante. On a besoin d'un toit toute sa vie, on a besoin de se loger, on a envie de transmettre, etc. Et en même temps, oui, parce qu'on est prêt à payer, finalement, n'importe quel prix. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je veux dire que quand vous avez un bien qui vaut en moyenne, première couronne, 300 000 euros, et que vous gagnez 40 000 euros par an, c'est juste de la folie.
Oui, c'est démesuré, oui.
C'est-à-dire, ça vous fait un taux de remboursement de 50% de vos revenus si vous n'avez pas la gentillesse ou la générosité de vos parents, ou tout simplement leurs moyens. Et donc, on ne peut pas avoir un système économique qui repose sur la subvention publique, sur un bien qui aurait dû rester dans une forme de rationalité. Mais avec toutes les complexités de la rareté du foncier, du fait que la production de l'immobilier, c'est pas quelque chose de délocalisable, vous ne pouvez pas produire de l'immobilier à l'autre bout du monde. C'est forcément de la main-d'œuvre, des matériaux, c'est des normes. Et donc tout ça augmente forcément plus que l'indice moyen du panier de la ménagère. Donc tous ces éléments de complexité nécessiteraient une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus, holistique et ordonnancée. Alors qu'en fait, on traite par petits bouts. On va traiter le logement social d'un coup.
Donc plus global et puis aussi sur la durée, quelque chose de pérenne.
Quelque chose de beaucoup plus pérenne, effectivement. Ouais. Vous savez, en 1970, c'est pas si vieux, hein, en 1970, on décédait à 72 ans en moyenne. Aujourd'hui, vous héritez à 56 ans en moyenne en France.
Bien sûr.
Ça retarde une génération. On a autorisé le divorce en 1975, enfin le divorce par consentement mutuel. On en a tous profité un certain nombre de fois.
Il n'y a pas si longtemps, au final.
Ah bah non, mais ça crée des besoins de logement.
Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'on assiste à une décohabitation, hein, c'est le phénomène expliqué par les sociologues. Après, il y a aussi, je pense, la société qui évolue, on est vraiment dans une société de consommation qui n'était pas le cas avant. On consomme même des histoires, on va dire, d'amour, hein, des... Tout
est jetable.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai, hein, non, mais ça a été prouvé. Hein. Il y a un phénomène vraiment de décohabitation qui est aussi dû à ça. Donc c'est vrai qu'on a un besoin de logement qui est de plus en plus présent. J'aimerais revenir sur du coup cette politique du logement justement. Vous avez conseillé Emmanuel Macron. Ouais. Alors, lors de sa campagne présidentielle, donc en 2017, c'est ça? Vous avez commencé...
2022
aussi. Alors, justement, c'est vrai qu'on connaît la position d'Emmanuel Macron par rapport au logement. Comment vous êtes arrivé à conseiller Emmanuel Macron? Comment vous êtes intéressé à la politique du logement? Parce que la politique française, déjà, et puis du logement. Voilà, quel a été votre parcours?
Bon, quand je dirigeais la Française, à un moment donné, je me disais, mais c'est incroyable, on a presque 30 milliards d'euros d'actifs immobiliers, et si on en a 300 en logement, c'est bien le maximum. Mmh. Donc il y a une espèce d'aberration, là aussi, de se dire, l'épargne immobilière doit aller nécessairement vers du tertiaire. Donc, je me suis dit, en même temps, je constatais ce phénomène du côté inabordable de l'immobilier, et donc de me dire, il faut qu'on trouve des solutions. Je veux dire, on ne peut pas avoir un modèle de société qui dérive autant. Donc petit à petit, c'est pour ça que ça donnera ensuite lieu à Néo-Proprio aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a intéressé dans le logement, c'était de voir croître ces inefficiences, ces blocages progressifs. Donc par rapport à cela, il s'est trouvé que j'avais eu la chance de rencontrer Emmanuel Macron quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée.
D'accord.
Donc c'est un peu comme ça qu'on avait fait connaissance. Il a dû me percevoir comme étant l'homme qui connaissait l'immobilier, ce qui n'était pas dans son entourage. Et ce qui n'était pas totalement faux, puisque une fois de plus, avec 30 milliards d'euros, ça pèse un petit peu.
Vous avez tout de suite cru en lui? Parce qu'à l'époque, rien ne le prédestinait à être...
Alors, si vous saviez le nombre de paris que j'ai gagnés, le fait que lui allait gagner.
C'est vrai? Vous avez su?
J'ai mangé gratuitement pendant des mois.
Vous êtes un parieur, un joueur, là.
Sur ce genre de choses,
ouais.
Oui.
Comment vous avez su?
J'ai parié sur deux choses. J'ai parié sur le fait que les autres partis allaient s'entretuer entre eux.
Ouais.
C'est-à-dire que la droite qui se déchirait à l'intérieur, la gauche qui se dégommait, je disais, bon, finalement, les gens...
Les extrêmes qui grignotaient aussi.
Les extrêmes qui grignotaient. Donc, le fait de voir quelqu'un qui arrive comme ça et qui, d'une certaine manière, vient de nulle part, et tout contre lui, c'est un peu la même situation que ce qui m'a toujours intéressé. C'est-à-dire un truc où... quelqu'un arrive, il n'a jamais été élu, il n'a pas de parti derrière lui, il a juste son intelligence et son charisme, qui sont grands pour les deux, et sur quelque chose qui est réellement disruptif, qui était réellement disruptif quand il a créé En Marche. Et ça, je me suis dit, je ne sais pas, peut-être que ça ne va pas marcher, mais...
Il y a tous les ingrédients pour que ça marche, en tout cas. Le timing est bon?
C'est pas ce que voyait l'immense majorité, mais en tout cas, il y a tous les ingrédients qui, pour moi, me faisaient dire et font qu'aujourd'hui, je fonctionne toujours comme ça, de me dire, il faut être en rupture. Et lui venait avec un scénario de rupture.
Oui, mais il faut que ce soit au bon moment, cette rupture.
Ah c'est la rupture, oui. Il faut bien sûr qu'il y ait un certain alignement. Et l'alignement, en l'espèce, c'était les dissensions dans les principaux partis. Qui était sympa.
Bien sûr, oui.
Ouais, pour un observateur extérieur, donc moi qui n'avais jamais été intéressé par la politique, je me suis dit, cette personne-là, j'ai envie de la suivre. J'ai envie de la suivre parce que je trouve que nous, collectivement, méritons mieux que ce que nous vivons.
Aujourd'hui, est-ce que vous suivez toujours Emmanuel Macron?
Oui. Oui. Je n'ai pas... c'est tellement facile de trouver des boucs émissaires et de dire c'est de sa faute. Regardez ceci, regardez cela. Pour moi, on a un tel problème de société qui est généralisé, qui n'est pas spécifique à la France, que je me dis, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là pour l'Europe. Heureusement qu'il est là même pour nous. Je ne sais pas si les gens réalisent totalement ce qui se passe, comme si c'était Emmanuel Macron qui était responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues, dans les sociétés, dans les écoles, dans les lycées, comme si c'était lui qui était responsable de l'effondrement de notre système scolaire, etc. Alors on a besoin, c'est très français, vous savez, on élit quelqu'un et puis ensuite on lui tape dessus, on a un côté régalien, on veut un chef, mais en fait on le déteste. Non, je rentre pas là-dedans, moi. Je continue d'être... de penser que regarder les chefs d'État, excusez-moi, mais dans les autres pays, c'est très curieusement, et je vais vous parler de quelqu'un d'autre, Joe Biden, par exemple, tout le monde dit il est nul. Mais regardez ce qu'il a réussi à faire. Là, le week-end dernier, sur l'Ukraine, il a réussi à mettre d'accord les démocrates et les républicains pour filer 60 milliards d'euros. C'est plus qu'étonnant. Et tout ça en s'effaçant. Mais c'est faut aller au-delà des apparences et au-delà des critiques faciles des médias au sens large.
Et pas singulièrement des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a la critique.
Ça vient des réseaux sociaux. Les réseaux asociaux sont terribles.
Ouais. Parce que c'est la facilité au final, une parole négative, des avis négatifs.
Avant, ça s'arrêtait au café du commerce.
Exactement.
Voilà.
Tout le monde peut s'exprimer. Tout le monde a une tribune pour pouvoir s'exprimer.
Oui, sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas.
Donc c'est dangereux.
Bien sûr. Toute la violence que l'on voit aujourd'hui, elle est quand même très largement issue. De ce que l'on voit, de ce que l'on entend tous les jours sur
Vous prêchez une convertie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pour en revenir à la politique d'Emmanuel Macron, alors c'est vrai que beaucoup de professionnels que je reçois sur ce plateau estiment tout de même, sans parler de son mandat, de dire si c'est un bon ou mauvais président, que il est quand même moins porté sur le logement, sur l'immobilier que par exemple un de ses prédécesseurs. Nicolas Sarkozy, qui lui l'avait clairement dit, il voulait une France de propriétaires. Là, Emmanuel Macron, c'est pas le cas. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est parce qu'il est issu de la finance, de la banque?
Non, pas du tout. France de propriétaires, ça peut se dire, ça peut, mais ça se décrète pas. Il faut ensuite que ce soit suivi par des actes. Quand on a décidé en France de faire une France de propriétaires dans les années 50, j'en ai parlé tout à l'heure, on a fait les crédits à taux fixe. C'était quelque chose qui a créé une France de propriétaires. Parce qu'on a donné les conditions économiques et financières de le faire.
Depuis, il n'y a plus rien eu, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Voilà, donc Nicolas Sarkozy, effectivement, disait faut que le travail paye, travailler plus, gagner plus, France de propriétaires.
Bon là, Gabriel Attal a dit à peu près la même chose, faut désmicardiser la France, ça voulait dire un petit peu,
bien sûr.
Un petit peu la même chose.
Mais ensuite, ça c'est le discours, ensuite il faut les actes.
Faut les actes,
oui. La réalité de l'intention, c'est l'acte.
Bien sûr.
Or, en l'espèce, il n'y a pas eu véritablement d'acte. Qu'est-ce qu'on en a changé? Est-ce qu'on a changé le modèle? Est-ce qu'on l'a fait évoluer? Est-ce qu'on a créé des foncières de logement? Vous voulez faire une France de propriétaire? Très bien, qu'est-ce que vous faites pour? Et ce n'est pas donner du pouvoir d'achat en tant que tel. Il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat.
Il faut inciter, il faut des dispositifs.
Il faut de l'offre, il faut probablement réfléchir à un nouveau système. Ce que je fais avec Néo-Propriété. Oui. Vous voulez une France de locataires, d'accord? Mais qui sont les propriétaires de ces locataires?
Oui.
Mais là aussi, c'est très facile de critiquer, mais la seule chose que l'on puisse reprocher finalement au gouvernement successif, et que c'était pas particulier à ceux d'Emmanuel Macron, mais parce que c'était pareil sous Hollande, pareil sous Sarko, je peux remonter assez loin, y compris sous Mitterrand, c'est que finalement ne pas avoir eu de cette vision holistique.
Oui, sur le long terme. Sur le long terme.
Qu'est-ce
aussi.
Qu'on veut?
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez comme modèle?
Et alors justement, on va parler de Néo-Proprio, donc c'est un nouveau modèle, la société des nouveaux propriétaires. Alors expliquez-nous le business model de cette société.
Le business model, ça part évidemment du constat que le logement, si je veux période un peu plus courte, il a été multiplié par deux depuis l'an 2000, alors que les revenus ont augmenté de 30%. Donc globalement, vous ne pouvez plus acheter. Sauf cas particulier. Ça, c'est d'un côté.
Sauf quand on a des parents très généreux.
Oula,
et très riches.
Oh, voilà, c'est pas toujours la même...
Ouais. C'est pas bon. L'un ne va pas forcément avec l'autre.
Voilà. Mais voilà. Et ce logement beaucoup trop cher pour être acheté par les particuliers, objectivement, les institutions... Pourquoi l'acheter pour le louer? Puisque, par contre, lui, le loyer, il a augmenté comme les revenus.
Oui. Donc, assez coup, peu, relativement, par rapport au prix d'achat.
30% en moyenne depuis l'an 2000, alors que les logements, c'est 200%. Donc, on voit bien qu'investir dans le logement n'a aucun intérêt, si je puis dire. C'est-à-dire que ce n'est pas rentable, enfin, très peu rentable, sauf si les prix augmentent, ce qui avait été
le cas. Sauf si on fait de la location saisonnière, c'est pour ça aussi qu'il y a eu...
Sauf si on fait de la location saisonnière, mais enfin, faut pas se louper au milieu, parce qu'il y a la théorie et la pratique. D'une part, et puis d'autre part, on sait tous que la réglementation sur les locations, résidence principale, elle est peu en faveur du propriétaire.
Bien sûr.
Si vous ne payez pas votre loyer, c'est surtout embêtant pour le propriétaire.
Ouais.
Pour caricaturer, et les charges sont plutôt à sa charge, ou à charge du propriétaire, etc. Donc, partant de ce constat, je dis finalement, faut raisonner différemment. Il faut donc casser le système. J'ai remarqué qu'il y avait un autre bien... qui s'appelle la voiture, qui a connu le même phénomène sur la période. Une voiture, grosso modo, les prix des voitures ont augmenté, ont été multipliés par 3.
Les constructeurs,
Multipliés par 3, 300% d'inflation. Et tant qu'une voiture valait 6 mois de salaire, les gens l'achetaient à crédit. Du jour où la voiture s'est mise à valoir 9 mois, 10 mois, 12 mois, 15 mois, bah, finalement, on est passé à un autre système. On est passé, effectivement, au leasing, LOA, LDD. Parce que, un, il y avait une incapacité, une impossibilité pour les gens de l'acheter, parce que ça aurait coûté trop cher à crédit. Donc aujourd'hui, vous avez une voiture 9 sur 2 qui se vend de cette manière-là, dans le parc privé, donc c'est gigantesque comme changement de système.
Et ça s'est démocratisé pour toutes les classes, hein. C'est vrai
ça s'est démocratisé pour tout le monde, parce qu'il n'y avait pas le choix, d'abord. Et les constructeurs de voitures... qui ont été les premiers à mettre ça en place à travers leurs outils de financement, bah ils sont pas allés demander des subventions à l'État.
Ah non.
Si vous regardez les comptes de Stellantis, année de bénéfices record, l'activité leasing, c'est sympa, hein. C'est très très loin d'être négatif. Ça rapporte de l'argent, ça n'en coûte pas. Or finalement, quelle est la différence entre un logement premier poste de dépense des Français et la voiture deuxième poste de dépense, il y a une différence émotionnelle évidente. On a toujours besoin d'un logement, pas forcément d'une voiture, mais surtout, peut-être sur le plan purement financier, c'est qu'une voiture, au bout de 10 ans, ça vaut rien, alors qu'un logement, il aura plutôt tendance à augmenter.
Oui.
Donc vous pouvez mettre en place des systèmes, et c'est ce que l'on fait, qui permettent de réconcilier les deux parties. Et le système, finalement, c'est une forme de leasing immobilier, mais sur très long terme, sur 25 ans. Et en fait, ce que l'on propose aux particuliers, c'est d'acheter pour un paiement initial de 50% du prix du bien qu'ils souhaitent acheter, donc d'acheter leur bien. Alors, je vais prendre un exemple chiffré, c'est peut-être plus facile.
J'aimerais devenir propriétaire. Donc.
Voilà, alors, voilà, vous visez un logement qui vaut 300 000 euros en première couronne, sympa, 5 000 euros du mètre, 60 mètres carrés, on peut loger papa, maman, et le premier, mais peut-être pas le second.
Ouais. Donc là, je suis primo-accédant.
Vous êtes primo-accédant dans cette hypothèse-là. Donc là, ce que vous dites, si vous voulez l'acheter et vous gagnez 3500 euros tous les deux ensemble, net.
D'accord.
Donc, typique français, une certaine classe sociale des Français. Si vous voulez acheter ce bien en pleine propriété et que vous n'avez pas d'apport, bien ça va vous coûter 1800 euros de crédit aujourd'hui. Si vous gagnez 3500...
Si je trouvais une banque qui accepte aussi.
Trouver une banque qui accepte de vous prêter 1500 euros par mois alors que vous gagnez 3500, donnez-moi l'adresse, ça fait plus de 50% de votre revenu. Donc c'est pas possible.
Ouais.
Vous pouvez le louer, si vous trouvez le même logement à louer, vous allez peut-être le louer 1100 euros par mois. C'est le prix normal de 60 mètres carrés, première couronne, etc. C'est bien, mais c'est de l'argent perdu, jeté par les fenêtres. Donc là, nous intervenons, on l'achète, notre foncière l'achète pour le compte du néo-propriétaire, et on revend immédiatement la propriété de ce bien pour une durée de 25 ans, qui est la durée de son crédit. 25 ans. Donc, c'est un, juridiquement, c'est un bail emphytéotique.
D'accord.
Donc, c'est quelque chose qui est finançable par un crédit, un crédit immobilier. C'est un droit réel, c'est un acte notarié. Vous allez chez le notaire comme pour une acquisition classique. Seulement, au lieu d'emprunter 300 000, vous empruntez 150 000.
Donc, la moitié.
Donc, la moitié. Et donc, au lieu de payer 1800, vous payez 900. Vous allez payer une petite redevance de l'ordre de 300 euros par mois. Donc, ça va vous coûter un peu plus cher au démarrage. 1200 euros au lieu contre 1100 euros. Mais vous êtes chez vous.
Et donc, vous, c'est le business model. Et comment vous gagnez de l'argent? C'est par rapport à la redevance, c'est ça?
Alors, je reviendrai dessus. Mais déjà, le néopropriétaire, on lui dit, vous êtes chez vous, vous payez 1200. Un loyer, ça augmente. Un crédit, ça se rembourse. Mais surtout, vous venez me voir dans 10 ans, vous dites, on veut partir, parce que j'ai une proposition de job ailleurs. Parce que
la moyenne, c'est 8 ans, c'est ça, c'est 8-10 ans.
Voilà, 8-10 ans, donc je dis, pas de problème, je suis engagé à vous racheter. Je vais vous le racheter le prix auquel je vous l'ai vendu, 150 000 euros, moins le temps que vous avez consommé, donc d'accord, en l'espèce, seulement 120 000. Mais je vous donnais quand même, ça c'est contractuel, mais si le prix du logement a augmenté, je vous donne 50% de la plus-value. Donc je vais peut-être vous donner 135 000 euros. Vous avez mis 150 000 que vous avez emprunté, je vous redonne 135 000 10 ans plus tard. Et la grande différence, c'est que vous ne devez plus à la banque que 90 000 euros. Donc vous avez économisé 45 000 euros. Donc l'équivalent d'une année de revenus. Donc l'équivalent de 30% de tout ce que vous avez dépensé. Donc au lieu de payer un loyer à fonds perdu, vous avez acheté, vous avez économisé 30% de votre loyer. Si par contre ce bien vous plaît toujours, et que vous n'aviez pas les moyens en 2024 d'acheter.
Mais qu'on les a désormais.
Mais vous les avez désormais.
On peut racheter, du coup, l'autre...
Vous rachetez, et on regarde le prix que ça vaut aujourd'hui. Vous avez déjà payé un certain montant à la base, et vous rachetez le complément. Donc vous achetez en deux fois. Et vous êtes totalement propriétaire chez vous. Et si vous restez 25 ans, vous récupérez globalement la mise.
Alors, la foncière qui est derrière.
La foncière qui est derrière, on lui dit quoi? On lui dit, aujourd'hui, tu n'investis pas en tant que foncière dans du logement. Parce que tu es un acte, tu es une société responsable, donc tu es là pour avoir un certain revenu. Le rendement locatif est trop faible, les ennuis sont trop importants. Donc on va te vendre, toi tu vas acheter le bien, tu vas revendre immédiatement 150 000 euros, tu vas encaisser la redevance des 300 euros par mois qui va te faire un revenu de l'ordre de 3%. Et dans 10 ans, tu rachètes. En moyenne, tu rachètes le bien à une personne qui soit veut déménager, soit veut acquérir la totalité. Donc avec la décote dont j'ai parlé, tu donnes 50% de la plus-value sur la partie financée au néopropriétaire. Toi, tu as 100% de la plus-value sur ce que tu as conservé, plus 50% de la plus-value sur l'autre. Donc tu vas faire un rendement de l'ordre de 7% par an. Ce qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus attractif, beaucoup plus intéressant que n'importe quel autre produit immobilier classique sur le bureau, par exemple, avec un impact social considérable.
Bien sûr. Aujourd'hui, combien de personnes sont intéressées justement par ce
modèle ? Alors aujourd'hui, on va sortir, quand vous cassez un modèle, on discute, on a créé cette société au mois d'août de l'année dernière, on a fait une augmentation de capital au mois d'août, on a fait venir toute une équipe. Aujourd'hui, on finalise avec... On a 80 programmes en même temps. Parce qu'en fait, on fait ça sur du neuf.
Uniquement sur du neuf.
Dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple. Pour tout un tas de raisons. Donc là, on va sortir nos premières opérations avec deux Mathieu Barre immobiliers, donc en banlieue parisienne et à côté de Nantes.
D'accord.
Et on en a à foison. Donc on commence avec, comme investisseur dans la foncière, quelques promoteurs. On discute avec beaucoup d'investisseurs, publics, parapublics, privés, pour venir casser le système. C'est pas casser pour casser, c'est redonner... Alors, ce sera probablement peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quelque chose de banal. Un peu comme les Anglais qui achètent des bouts emphytéotiques à 99 ans.
Oui, bien sûr.
Nous, on a la chance d'avoir les taux fixes en plus. Donc, ça permet de faire des choses que ne peuvent pas faire les Anglais. Aujourd'hui, c'est nouveau. On lance ça, on a la conviction. En fait, on touche tous les gens qui sont au-dessus du pur social mais qui ne sont pas dans les 9e et 10e déciles, qui ont les moyens. Donc, autrement dit, 50% des Français.
Oui.
Alors, on l'avait testé, ce modèle-là.
Donc, c'est classe moyenne plus plus. Enfin, classe moyenne plus. C'est classe assez large, la classe moyenne, de toute façon.
Ah ouais, oui, elle est moyenne.
Mais la fourchette haute de la classe moyenne, on va dire.
Oui, on commence au 5e décile.
Oui.
Donc, c'est, a priori, 50 déciles, 5e décile veut dire 50%.
Alors, l'émission touche à sa fin. Deux questions, peut-être. Donc, pour vous retrouver, un site internet.
Oui, neoproprio.fr.
Voilà, tout simplement. J'imagine que tout est expliqué dessus.
J'espère.
Vous répondez aux questions. Il y a un numéro, si jamais des auditeurs.
L'instant, il y a des contacts internet. On a très peu de programmes aujourd'hui disponibles.
Ouais.
Ça va se développer. Donc, c'est les gens ne peuvent pas venir aujourd'hui avec leur projet. On passe par les promoteurs. Donc on passe des accords avec les promoteurs sur un certain nombre de programmes.
Donc vous l'avez dit en banlieue parisienne et en banlieue de Nantes.
Banlieue de Nantes, bon, là, et puis mais on en a absolument partout, enfin dans toutes les zones tendues.
D'accord.
En gestation.
Alors on est vendredi, on change totalement de sujet. Qu'allez-vous faire ce week-end ?
J'ai deux fêtes d'anniversaire.
Ah.
J'ai deux fêtes d'anniversaire. Voilà, un des associés de Neoproprio et puis une vieille amie. Alors, une vieille amie, c'est jamais très positif. Mais une longue date, alors.
Oui, une amie longue date. D'accord. Bon, donc un week-end festif et on termine en musique, hein, puisqu'on l'a dit en début d'émission, vous êtes à la programmation musicale. Là, c'est La Tendresse de Marie Laforêt. Pourquoi ce choix ?
Alors, la version de Marie Laforêt, bon, parce que j'en ai pas trouvé d'autres là, mais. C'est pareil, je pense que c'est un peu caricatural dans le monde brut dans lequel on vit. Je pense que on a besoin de se retrouver. Pour moi, c'est la logique française de la version d'Imagine. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à connaître, qui avait été très mis en avant pendant le Covid. Mmh. Il y avait notamment une version qui avait été faite comme ça, où chacun des artistes le faisaient à distance.
Oui, c'est vrai.
Et c'était ouais, de
chez eux. Ouais.
De chez eux, et donc ils étaient là et ils avaient réussi cet exploit de. Comme j'ai eu l'occasion de la jouer d'ailleurs au studio 104 de Radio France, c'était un clin d'œil à moi-même.
Et ben voilà, ben on écoute. En tout cas, merci infiniment Xavier Lépine d'avoir été mon invité pour ce Mac de Limo. C'est un plaisir de vous recevoir et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. À très vite.
De la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Jusqu'à la fin des jours.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.